Il montre ce qui, dans notre prière d'intercession, devrait entourer justement la prière. Je vous lis le verset 1. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de ruse et de fraude. Le psalmiste prie parce que il est écrasé par d'autres personnes. Et il demande au Seigneur d'intervenir pour lui. Hein? Rends-moi justice. C'est bien de l'intercession. Mais regardez comment il commence. Hein? Ce psaume montre, si je puis dire, la porte d'entrée dans l'intercession. Au tout début, le cœur du psalmiste est habité par deux accents. Hein? D'un côté, bien sûr, à cause de ses ennemis qui l'écrasent, hein, il y a en lui blessure, tristesse, colère peut-être aussi. Mais d'un autre côté, il y a aussi en lui la conviction d'être juste devant Dieu. Hein? Rends-moi justice. C'est-à-dire, le psalmiste sait qu'il est juste. En fait, il dit, Seigneur, regarde, moi je suis juste, alors que mes ennemis, eux, ils sont faux. Hein? Dans le texte, ils sont une nation infidèle. Alors, ô Dieu, rends-moi justice. Intéressant. Quand nous demandons quelque chose au Seigneur, nous pouvons le faire avec assurance parce qu'à ses yeux, nous sommes justes. Hein, parce que nous avons été justifiés par l'œuvre de Jésus sur la croix. Alors, quand nous entrons dans la prière, d'intercession, eh bien, rappelons-nous-en. Hein, et n'entrons pas devant le Seigneur seulement avec nos blessures, nos tristesses, nos impatiences, nos colères peut-être aussi. Plaçons-nous devant lui avec cette certitude d'avoir été rendu juste et avec reconnaissance. Finalement, intercéder au nom de Jésus, ce n'est pas seulement nous placer derrière lui sur le chemin et puis mettre toute notre énergie à formuler comme il faut nos demandes devant le Père. Hein? Prier au nom de Jésus, c'est aussi, d'abord, accepter d'avoir besoin de sa mort pour nous et lui dire notre reconnaissance. Et du coup, c'est aussi d'abord entrer dans sa présence avec un « merci pour ton œuvre pour moi ». En fait, c'est ça, la porte d'entrée dans la prière d'intercession. Se rappeler avec reconnaissance que nous avons été justifiés par Jésus. Je reviens au texte. Hein, le psalmiste est attaqué par fraude. Or, dans la langue originale, en hébreu, le terme qui est derrière ce mot, c'est « action injuste ». On fait injustice au psalmiste. Et en plus, avec ruse, hein, c'est dans le texte, mensonge, par derrière. Alors, lui, il ne peut même pas se défendre. Hein, le psalmiste est comme emprisonné dans cette injustice. Voilà pourquoi il dit « délivre-moi ». Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Regardez, je lis au verset 2. Je lis « C'est toi, mon Dieu protecteur, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Hein? Tu es Dieu, tout-puissant, Tu es mon Dieu, mon protecteur. Et je me retrouve sous l'oppression de l'ennemi, dans la tristesse. Alors effectivement, ça va pas. Et ici, le mot, c'est pourquoi. Hein? Pourquoi tristesse et oppression? Et c'est une question grave. Parce que pour le psalmiste, la réponse logique ici, ça serait « Tu m'as rejeté ». Et c'est bien ce qu'il dit. Hein? Pourquoi m'as-tu rejeté? Alors là, on découvre un troisième accent dans le cœur du psalmiste. C'est l'incompréhension. L'incompréhension de se retrouver écrasé dans une situation difficile, alors que lui, il a toujours fait ce qui est juste devant Dieu. Alors, il y a ces trois axes qui se retrouvent dans sa prière. Hein? D'abord, il dit sa blessure à cause de l'injustice qu'on lui fait. Ensuite, il dit sa conviction d'être en ordre devant Dieu, d'être juste. Et enfin, il dit son incompréhension. Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu ne me protèges pas? Parce que le psalmiste est dans une situation difficile. Hein, et il prie pour cette situation. Mais le Seigneur n'intervient pas. Et ça, c'est intéressant pour nous. Parce que nous aussi, nous pouvons nous retrouver dans une situation lourde et difficile, pour laquelle nous prions, et peut-être depuis longtemps, mais visiblement, le Seigneur n'intervient pas, ou pas encore. Alors nous non plus, nous ne comprenons pas pourquoi. Mais écoutez la suite du texte, le verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Et ça, c'est très intéressant. Dans la situation où le psalmiste se trouve, on s'attendrait plutôt à ce qu'il demande à Dieu sa protection. Hein? D'autant plus qu'au verset 2, il a justement dit « C'est toi, mon Dieu protecteur. » Mais ce n'est pas ce qu'il demande. Regardez. « Envoie ta lumière et ta vérité. » D'abord, ta lumière. La lumière, c'est ce qui permet de voir où on va. Hein? C'est ce qui donne le discernement de notre marche devant Dieu. La lumière, c'est ce qui nous permet de voir ce qui est juste, de savoir que nous sommes bien sur le chemin de Dieu, que nous sommes sous sa main et qu'il continue à nous guider. Et alors, c'est aussi cette lumière qui nous apporte l'espérance. Hein? On a lumière, discernement, espérance. Et puis maintenant, la vérité. La vérité, c'est un savoir, c'est une compréhension. Ici, c'est la compréhension de la véritable parole de Dieu. Hein, c'est la compréhension de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et dans notre marche devant Dieu, eh bien, cette vérité, c'est la compréhension qui nous apporte l'assurance. Hein, l'assurance de bel et bien demeurer sur le chemin de Dieu pour nous. Alors on a vérité, compréhension, assurance. Ainsi, ta lumière et ta vérité, eh bien, ce sont des guides. D'ailleurs, ici, n'est-ce pas, on a bien le verbe guider, conduire. Hein? La lumière et la vérité, ce sont des guides que le Seigneur nous donne dans notre vie pour nous apporter espérance et assurance, et que ça se développe en nous. Alors, je résume. Ici, le psalmiste est opprimé. Mais ce qu'il demande au Seigneur, ce n'est pas sa protection. C'est le discernement et la compréhension. N'est-ce pas? Il ne demande pas au Seigneur de rétablir sa situation et de le mettre à l'aise. Il lui demande sa direction dans ces temps difficiles. Parce que de toute façon, le psalmiste, il a confiance que le Seigneur va le protéger et qu'il le rétablira le moment venu. Alors là, il y a quelque chose d'important pour nous. Parce que nous aussi, nous pouvons être dans une situation difficile, hein, nous pouvons traverser une situation difficile où nous sommes opprimés, ou bien par des gens, ou bien par des circonstances. Et peut-être nous avons prié, mais le Seigneur ne nous a pas répondu, pas encore. Alors nous sommes dans la même situation que le psalmiste ici. Et dans notre situation difficile, eh bien, ce texte nous appelle à faire comme le psalmiste, comme lui. C'est-à-dire, au lieu de juste crier au Seigneur dans la prière jusqu'à ce qu'il agisse, selon notre vision des choses, eh bien, commençons par recevoir notre situation comme une situation qui est OK devant lui pour le moment. Même si elle est difficile pour nous. Attention, ça ne veut pas dire faire le gros dos et puis encaisser tous les coups de la vie sans rien faire, sans réagir. Hein, dans beaucoup de psaumes, le psalmiste prie pour la libération. Mais je crois qu'une particularité dans ce psaume 43, c'est qu'il nous montre par quoi devrait commencer notre intercession. Hein? C'est juste de demander au Seigneur de nous libérer de ce qui nous oppresse. Mais avant ça, mettons-nous d'abord devant lui et acceptons que notre situation difficile, c'est une situation qui est OK devant lui pour le moment. Si notre situation est devenue difficile, ce n'est pas parce que le Seigneur n'a rien vu, ou bien parce que le contrôle de la situation lui a échappé. Hein? Alors, faisons-lui confiance et acceptons notre situation et commençons par lui demander, comme ici, discernement et compréhension. D'ailleurs, écoutez la suite. Le verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie, mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Hein? J'irai vers l'autel de Dieu. Ici, en français, on a le verbe aller. Mais, en fait, fondamentalement, dans le texte original en hébreu, on a le verbe « venir », pas le verbe « aller ». Pourquoi? C'est parce que dans la culture biblique, aller vers l'autel de Dieu, c'est comme venir tout à l'intérieur de moi, là où il y a mes origines premières. Hein, c'est quitter un peu le moi de surface avec les réactions directes comme la colère, la peur. Et puis, venir ou aller, hein, tout à l'intérieur de moi, tout au fond, là où se trouve le Seigneur, et où je peux rentrer en relation avec lui. Et c'est là, justement, dit le psalmiste, que je trouve ma joie et mon allégresse. Parce que c'est la rencontre avec Dieu qui génère en moi ma joie et mon allégresse. Du coup, cette lumière et cette vérité dont on parlait tout à l'heure. Hein, je veux dire, ce discernement entre juste et injuste, et puis cette compréhension de l'action de Dieu en nous, eh bien, ce sont bien des guides. Et cette lumière et cette vérité, elles nous guident vers la présence de Dieu, vers lui, vers son autel. Elle nous mène aussi à la joie et à l'allégresse, comme ici dans le psaume. Mais là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Parce que il y a probablement des gens parmi nous, ceux parmi nous qui ont vécu des choses dures sur un long terme. Et peut-être pour vous, joie et allégresse, ça ne veut plus dire grand-chose. Hein, comme si le ressort était un peu cassé. En fait, c'est mon cas, moi aussi. Mais si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose du côté de, disons, capacité de joie et allégresse, eh bien, jetez voir un coup d'œil du côté de ce que le Seigneur vous a donné à vous, personnellement, par sa présence. Hein? Par exemple, moi, le Seigneur ne m'a pas donné une grande capacité de joie. Ça, c'est vrai. En revanche, il m'a donné une grande capacité de paix, à perte de vue de tous les côtés. Et c'est génial. Et ça remplace bien. Je referme la parenthèse et je reviens au texte. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. C'est-à-dire, cette joie, cette allégresse, cette paix et toutes ces choses que le Seigneur nous a données par sa présence, hein, par la rencontre avec lui, eh bien, toutes ces choses, elles nous amènent à la possibilité de le célébrer. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, dans la langue originale, le verbe traduit ici par célébrer, il signifie confesser ouvertement et librement. En fait, c'est ce que nous faisons ici et maintenant au culte. Ici à Cossonay, nous célébrons ouvertement et librement, nous confessons le Seigneur, ici à Cossonay. D'ailleurs, si on passe en grec, ce verbe-là, à la racine, c'est le même verbe que celui que Jésus utilise quand il dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est Matthieu 10, au verset 32. C'est-à-dire, ces cadeaux que nous recevons du Seigneur à travers notre rencontre avec lui, comme la joie, la paix, eh bien, ces choses, elles devraient nous entraîner à la célébration, la confession, le témoignage. Regardons le verset 5. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme, pourquoi t'abattu? Pourquoi gémis-tu? Ici, le verbe abattre veut dire courbé contre en bas, déprimé. Et puis le verbe gémir veut dire se lamenter avec bruit. Autrement dit, ici, le psalmiste se sent déprimé. Il exprime son désespoir. Pourquoi t'abattu, mon âme? Mais il répond tout de suite, parce qu'il sait la solution. Attends-toi à Dieu. C'est-à-dire, espère en lui. Et pas une espérance à 60%. Une espérance à 100%. D'ailleurs, Vous savez, dans la Septante, la traduction grecque que les Juifs eux-mêmes ont faite, eh bien, dans cette traduction, ce verbe-là, c'est le verbe espérer. Attends-toi à Dieu est traduit par espère en Dieu. Et c'est un impératif. Mais cet impératif, il a comme un environnement, hein, si je puis dire. Regardez les deux verbes suivants, qui, eux, ne sont pas à l'impératif. Hein? D'abord, une action. Je te célébrerai. C'est le même verbe qu'au verset 4. Et puis ensuite, il y a une confession de foi. Hein? Il est mon salut et mon Dieu. Je le crois mieux, je le sais. Alors ça, célébrer et confesser, eh ben c'est l'environnement à l'intérieur duquel je vais pouvoir espérer à 100% plutôt que me laisser emporter par la déprime. Alors ici aussi, il y a un appel pour nous. Si comme le psalmiste, nous nous voyons abattus, gémissants, déprimés, eh bien faisons comme lui. C'est-à-dire, célébrons le Seigneur et confessons que c'est lui, c'est de lui que nous attendons les bénédictions. Et ça, je crois, avant tout, dans l'Église. Parce que l'Église, le Seigneur nous l'a donné pour ça aussi. Alors, si nous nous reconnaissons comme abattus et écrasés, hein, écrabouillés, eh bien, espérons en Dieu et dans l'Église, parlons de notre espérance à nos frères et sœurs. En fait, c'est pile ce que fait le psalmiste. Hein, ici, il dit, il est mon salut et mon Dieu. Et il dit cela, hein, via ce psaume, à d'autres qui, comme lui, sont attachés au Seigneur. Alors, je conclue. Ce psaume 43, c'est la prière d'un homme qui se sent écrasé et seul. D'abord, il se sent écrasé par d'autres personnes qui sont injustes avec lui. Et puis ensuite, il se sent seul parce qu'il remarque que malgré ses prières, Dieu n'intervient pas. Et ça, ça nous rejoint. Parce qu'effectivement, même si nous avons été pleinement justifiés devant Dieu, eh bien, nous aussi, nous pouvons nous retrouver injustement écrasés. Et ça peut durer depuis longtemps. Et nous avons prié, mais nous avons l'impression que rien n'a changé. Hein, comme si le Seigneur nous avait rejetés, comme dans ce psaume. Alors ce psaume 43 nous montre un chemin, le chemin. Dire notre blessure au Seigneur, hein, bien sûr qu'il le sait déjà, mais c'est nous qui avons besoin de le formuler. Et puis deux, être convaincu d'être en ordre devant lui. Et si nous ne le sommes pas, eh bien lui demander de nous pardonner, être convaincu qu'il le fait. Il l'a promis et Jésus est mort pour cela. Et puis trois, accepter la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Et à l'intérieur de cette situation, eh bien, commencer par demander au Seigneur sa direction et entrer plus profondément en relation avec lui. Et puis enfin quatre, nous rappeler que c'est là dans cette pleine relation de confiance avec le Seigneur que nous pouvons lui demander d'intervenir dans notre situation et de nous libérer, mais en gardant confiance en lui. Alors, je résume tout ça en trois lignes, en trois phrases. Hein, si nous sommes écrasés par notre situation, nous laisser conduire devant le Seigneur par les guides qu'il nous a donnés, discernement et compréhension. se voir notre situation comme une situation qui est OK devant lui pour le moment, et alors lui demander son intervention, mais en lui faisant confiance. Et dans notre vie avec le Seigneur, c'est tout ça qui nous permet d'espérer à 100%. Amen.